morning edition from NPR News.
Merci, Tinsan Pimper House.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes au Liban, dont le nouveau Premier ministre est à l'Élysée demain pour parler avec Emmanuel Macron, peut-être essayer de le convaincre. Ça y est, le Liban va enfin faire de son mieux pour repartir après 396 jours de vacances du pouvoir. Il faudra surtout en convaincre la population. Et là, on est loin du compte. Le bruit du monde ce soir est dans le Bade-Württemberg, la seule région allemande gouvernée par les Verts. Trois mandats de suite, les Verts qui vont jouer un rôle important forcément aux élections de dimanche, mais qui sont loin aussi de ressembler à nos Verts. Le bruit du monde, la suite sous les radars, Sébastien Leogeni a trouvé une tentative d'assassinat en Ukraine. Un jeune addict aux jeux vidéo en Espagne et de la marche à pied en Ouzbékistan, 18h50. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et Angélique Point, l'Europe qui a mis du temps. Mais enfin, on aura un chargeur universel pour nos téléphones. En 2024, Apple dénonce une mesure anti-innovation. Revoici le mot qui fâche, les normes européennes. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four. Avec cette question, l'Allemagne qui va voter, allons-nous vers une confirmation du regain de la social-démocratie en Europe? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonjour Aurélie Daher.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse à Paris Dauphine, à Sciences Po, spécialiste évidemment du Liban et sa région. Le tout nouveau, je le disais, à peine approuvé par le Parlement, Premier ministre libanais donc à Paris, rencontre avec Emmanuel Macron prévue demain. On va y venir évidemment très spécifiquement, mais je voudrais vraiment qu'on prenne le temps d'abord d'aller dans les rues de Beyrouth. Parce que comprendre pourquoi on a trouvé un gouvernement après 396 jours, c'est aussi comprendre cette cocotte minute incroyable qui est devenue le Liban aujourd'hui. Et c'est vous qui allez nous décrire tout cela. Bonsoir Aurélie. Aurélien Colli.
Bonsoir.
Avec nous depuis Beyrouth, bien sûr. Aurélien, ça fait longtemps et vous êtes déjà venu dans Un jour dans le monde nous le décrire. D'ailleurs, qu'on parle de plus d'électricité, plus d'essence. Mais au fond, moi j'ai l'impression qu'à force de le dire, on n'arrive plus à se figurer ce que ça veut dire que de vivre au Liban aujourd'hui, de vivre à Beyrouth comme vous le faites. Racontez-nous, ça veut dire quoi dans le quotidien ?
C'est assez difficile à imaginer quand on vit dans un pays comme la France. C'est une vie quotidienne, en fait, de galère. Pas d'électricité, Fabienne, ça veut dire pas de frigidaire, pas de machine, pas de chauffe-eau, pas de pompe pour l'eau courante dans les robinets, pas d'ascenseur quand on habite dans les étages supérieurs. Ça veut dire chez soi pas de télé, pas d'interphone, pas d'internet, et puis pas d'air conditionné, par exemple, dans un pays où il fait quand même 30 degrés la nuit. Ça veut dire aussi le noir à la tombée de la nuit, c'est à peu près vers 18 heures en ce moment ici. Pas de lumière chez soi, pas de feu de circulation dans les rues, pas d'éclairage public. Alors il y a toujours eu au Liban des groupes électrogènes qui alimentent les quartiers, les immeubles, les commerces, mais ça dépend de l'essence et du fuel. Et là encore, il y en a pas ou il y en a plus, on l'a déjà dit. L'essence aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que quasiment toutes les stations-service sont fermées dans Beyrouth et dans le Liban. Quand il y en a certaines qui sont ouvertes, ça veut dire des heures et des heures de queue. Il y a des Libanais qui arrivent à 2 heures du matin, qui dorment dans leur voiture, qui attendent jusqu'à midi le lendemain, et parfois pour rien parce que la station est vide et il n'y a pas de transport public au Liban. Et puis le fuel, c'est les groupes électrogènes, je vous le disais, donc l'électricité, là c'est pareil, il n'y en a plus ou bien c'est devenu complètement inaccessible, les gens peuvent plus payer. Alors si vous ajoutez l'inflation, la monnaie qui a perdu toute sa valeur, 10 fois sa valeur par rapport à il y a 2 ans, l'argent qui est bloqué dans les banques, et ben ça donne des Libanais épuisés, exténués, franchement tendus à bloc avec des incidents aux stations-service, des bagarres faciles qui quelquefois dégénèrent parfois avec des tirs à l'arme à feu. Il y a des drames aussi, comme cet été, l'explosion d'une citerne dans le nord qui a tué des dizaines de personnes qui voulaient juste récupérer un peu d'essence. On a vraiment un Liban qui est à bout. Dans mon quartier, moi je croise des gens qui ont maigri à vue d'œil. Ailleurs, des Libanais qui sont dans la survie, ils le disent. Ils peuvent pas nourrir leur famille, ils peuvent pas payer la scolarité des enfants, les fournitures. Les Libanais aujourd'hui, ils veulent partir. Le pays se vide. Littéralement, il y a 2 jours, j'étais devant la Sûreté Générale, l'équivalent du gros commissariat central, à 4h du matin, et il y avait des dizaines de Libanais qui faisaient la queue pour avoir un passeport, partir à tout prix vers l'Europe, vers l'Afrique, vers les pays du Golfe, vers la Turquie, n'importe où, mais plus au Liban, ils me disaient. Et puis hier, j'ai vu un psychiatre qui m'a parlé de la santé mentale des Libanais. Une épidémie pour lui de maladie mentale, dépression, crise d'angoisse, troubles du sommeil, et il y a même plus de médicaments pour traiter ces gens, parce qu'au Liban, il y a aussi des pénuries de médicaments. Ça va des antibiotiques de base que vous achetez tous les jours à Paris ou en France, au traitement du cancer, en passant par le lait pour bébé. Dans les supermarchés, on le trouve si facilement en France. C'est vraiment un pays qui s'est effondré avec des tensions extrêmes et un risque que ça tourne aux violences confessionnelles. Même les forces de sécurité sont à l'os et mettent en garde. C'est vraiment sidérant, sauf pour une petite, petite minorité de la population qui a accès à de l'argent frais, c'est-à-dire aux dollars ou aux euros, ou qui reçoit de l'aide de la diaspora libanaise, des proches qui sont à l'étranger.
Merci beaucoup Aurélien, vous allez rester avec nous parce qu'on va avoir envie de vous entendre aussi dans quelques temps. C'est important, Aurélien Dair, de faire ce portrait-là qui est très juste de la part d'Aurélien, parce que l'une des raisons pour lesquelles, au fond, on a fini par s'entendre et il y a un gouvernement, c'est aussi ça, c'est ce que disait Aurélien à la fin. Cette poudrière, à un moment, finira par exploser en violence confessionnelle.
Oui et non. C'est-à-dire que paradoxalement, il peut y avoir aussi c'est un jeu à double tranchant. Mmh. C'est-à-dire que laisser aussi la population dans une situation compliquée, ça peut être aussi un moyen pour la classe politique en place, qui assied aussi sa légitimité et la longévité de sa présence dans le clientélisme. Mmh. C'est-à-dire que il y a aussi beaucoup de personnes, par exemple, qui étaient descendues dans les rues. Vous vous souvenez, en 2019, on avait beaucoup de gens pour grosso modo conspuer toute cette classe politique et qui aujourd'hui, faute de mieux, parce qu'il y a effectivement il y a plus d'électricité, il y a plus de médicaments, il y a plus, on peut plus envoyer les enfants à l'école, on peut même pas aller au boulot. Donc maintenant on est sur Teams, mais encore il faut avoir de l'électricité pour faire tourner l'ordinateur, etc. Il n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui finalement le retour au bon vieux clientélisme à l'ancienne, c'est-à-dire que je retourne faire obédience à chef communautaire qui lui va finalement me donner quelques,
et peut-être me trouver de l'essence, et
me trouver quelques centaines de dollars, placer mon enfant dans une école, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est à double tranchant.
Et c'est peut-être aussi une société, par ailleurs, qui est trop fatiguée désormais pour se révolter, comme elle l'a fait il y a 2 ans, juste avant les confinements. Est-ce qu'on est dans une société trop fatiguée pour se révolter aujourd'hui, ou pas ?
Elle est complètement fatiguée, et puis aussi, elle a compris deux choses. Elle a compris malheureusement que, après ce grand élan enthousiaste d'il y a 2 ans, finalement, c'est la montagne a accouché d'une souris, c'est-à-dire qu'on attend toujours en fait une relève politique de personnes qui seraient technocrates, qui auraient les mains propres, etc. Or, malheureusement, il n'y a pas eu de vrais partis politiques qui ont émergé en fait de tous ces mouvements de protestation. Il n'y a pas eu de nouveaux leaders. Il y a eu aussi de la récupération, paradoxalement, par des groupes d'opposition qui soudain se sont inventés un profil révolutionnaire, alors qu'en fait eux-mêmes avaient participé à cette gabegie donc qui a été au pouvoir pendant 30 ans, etc. Je pense que ça a dégoûté aussi pas mal de gens, ça a découragé pas mal de gens. Et puis il y a aussi une chose que tout le monde a compris, c'est qu'en fait, tant qu'on n'aurait pas de stabilité politique, or évidemment la révolution, en tout cas la protestation, ne permettait pas ça, on n'aurait pas non plus d'amélioration de la condition bancaire. Parce que ça, donc le portrait qui a été fait par Aurélien, il est extrêmement juste, il est plutôt complet. Mais il y a aussi un autre grand tracas chez les Libanais, c'est la valeur de la monnaie nationale. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait une livre libanaise qui se maintenait depuis 92 jusqu'en 2019 à 1500 livres pour 1 dollar. Et puis aujourd'hui, elle est à 16 500 le livre libanais le dollar. Ça veut dire que quand vous touchez un salaire en livre libanais, c'est comme si on vous donnait des bouts de papier, vous ne pouvez strictement rien en faire. Donc ça aussi, je pense que les Libanais ont compris qu'il fallait faire un choix. C'est-à-dire, par où on commence ? Est-ce que je commence par stabiliser l'économie, quitte à reprendre des membres de la classe politique habituelle, ou est-ce que je commence par faire sauter le système politique, mais au risque de crever de faim.
Alors, donc, on est effectivement dans une situation où nous avons...
C'est le choix cornélien.
Comme vous dites, nous avons un Premier ministre qui s'appelle Najib Mikati, et comme vous l'avez dit, la maladie politico-confessionnelle, je pense que c'est un terme qu'a employé Pieraski chez nous il n'y a pas très longtemps, la maladie politico-confessionnelle est toujours là. Et encore là, le gouvernement, alors, disons qu'il est, il est un peu déguisé en société civile, on est d'accord, mais chacun va chercher ses obédiences là où elles sont, comme d'habitude. Donc, au fond, qu'est-ce qui amène de plus Najib Mikati, qui, rappelons-le, on va essayer de faire son portrait dans un instant, mais est le plus riche du Liban, avec des histoires de corruption ici et là dans sa carrière, comme j'allais dire, c'est souvent le cas, 2 fois Premier ministre. Au fond, pourquoi lui plus qu'un autre, et pourquoi est-ce que ça marcherait mieux avec lui qu'avec un autre ?
Alors, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, tout en même temps, en m'appuyant sur la manière dont le système libanais fonctionne. Comme vous savez, vous l'avez dit d'ailleurs, donc on est dans un système confessionnel, en plein cœur du système politique, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre un Premier ministre qui, par exemple, ne serait pas de confession sunnite. Du coup, ça restreint déjà le choix parmi les premiers ministrables. Il y a autre chose aussi, c'est que la situation des premiers ministrables aujourd'hui au Liban, elle est aussi le résultat d'une politique qui a été menée démarrée avec Hariri père. Hariri père, quand il est arrivé en 92, il restructure le champ politique sunnite, il évince en fait ses compétiteurs, et finalement aujourd'hui, parmi les premiers ministrables, ne reste que des gens qui sont plus ou moins dans le même vivier.
Pardon de vous interrompre, mais vraiment pour essayer d'aller que les gens comprennent, j'entends ce que vous dites et aussi peut-être même l'obligation parfois de rester dans ce cadre confessionnel pour l'instant. Je voudrais répéter ma question, pourquoi il réussirait mieux qu'un autre au point où on se parle là?
Alors, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Alors, comme vous l'avez dit, là, il en est quand même là, son troisième gouvernement. Mais les deux gouvernements qu'il a menés, en fait, ont été menés à des moments extrêmement sensibles de l'histoire contemporaine libanaise. Il prend, grosso modo, la tête d'un gouvernement en 2005, c'est-à-dire au moment où il s'agit de mener l'exercice extrêmement périlleux, de faire passer le système politique libanais d'une situation de tutelle, puisqu'on a eu une tutelle syrienne pendant 15 ans, hein, Damas gérait les affaires libanaises dans le détail tous les jours, à une situation où, voilà, maintenant il faut que les Libanais reprennent leur destin en main, apprennent à discuter entre eux sans intermédiaire syrien cette fois-ci, et dans une situation extrêmement polarisée. C'était extrêmement explosif comme situation. Il a réussi sa mission. Il reprend du service en 2011, au moment où ça commence à se déstabiliser en Syrie. À partir de 2012, on se dit, attention, la guerre en Syrie va déborder sur Liban. Encore une fois, il réussit finalement à maintenir, j'ai envie de dire, la cocotte minute, qui est alors vraiment sous pression. Il empêche l'explosion de la cocotte minute. Donc là, j'ai envie de dire, bon, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Où Albert Einstein disait tout est relatif. Bon, on va faire avec ce qu'on a.
C'est le meilleur borgne qu'on aurait pu trouver, en gros, Aurélie.
C'est le moins mauvais des mauvais.
Aurélien Colli, je voudrais qu'on retourne avec vous une seconde parce qu'on va parler dans un tout petit instant du fait qu'il est attendu à Paris. Ce roi des borgnes, comme dirait Aurélie Daher, rappelez-nous quand même, parce qu'on s'en souvient, l'arrivée d'Emmanuel Macron, on se souvient du « Je vous aiderai » et puis de l'engueulade quasiment qu'il y a eu la deuxième fois.
Il y a eu la brouille.
Et on a l'impression que à la fois il vient le voir à l'Élysée, bien sûr, et en même temps Emmanuel Macron a mis beaucoup d'eau dans son vent. On a l'impression que le Liban qu'on peut, en fait, en quelque sorte, non? Attendez, pardon, juste une seconde. Aurélien, allez-y, excusez-moi.
Le ton a changé. L'année dernière, Emmanuel Macron avait exigé un gouvernement d'experts, indépendants, des partis confessionnels pour mener les réformes. Ensuite, il était venu en octobre, il avait aussi tiré à boulets rouges sur les responsables politiques, sur leur irresponsabilité. Clairement, aujourd'hui, les Français sont confrontés à un certain réalisme et il faut faire avec ce qu'il y a. Le Liban qu'on peut avoir, et clairement les diplomates avec lesquels j'ai pu parler, ils me disent depuis un an, depuis 13 mois qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a rien, il y a le vide. Donc au moins c'est déjà une première étape, c'est pas une étape essentielle, mais c'est une étape essentielle quand même qu'il y a un gouvernement, mais on est très loin d'être suffisante, mais ça peut enclencher une dynamique, ça fait un petit répit quand même dans l'effondrement, donc il faut saisir l'opportunité pour la France. Et puis il y a quand même, clairement on l'a senti dans la manière dont les Français, mais aussi les Européens, les Américains ont accueilli ce nouveau gouvernement. C'est pas parce qu'un gouvernement existe que l'aide internationale sera débloquée. Il y aura pas de chèque en blanc parce qu'il y a ce nouveau gouvernement. Il y a des exigences maintenant. Il y a trois grosses priorités. C'est enrayer l'effondrement du pays et réduire la souffrance des Libanais. Ça veut dire quand même un minimum de services de base qui doivent être établis. Il faut préparer la sortie de crise. Donc ça veut dire négocier avec le FMI, restructurer la dette, le secteur bancaire. Et puis il y a les élections de 2022 qui vont arriver très vite, et la communauté internationale veut que ces élections se tiennent, quels qu'en soient les résultats, même si c'est pour remettre en selle les partis confessionnels, ou bien pour faire émerger une certaine opposition, même si ça va être délicat. Mais en tout cas, sur ces trois exigences, elles sont claires, et les Français comme les Européens et les Américains, qui ont quand même mis en place un cadre de sanctions pour les responsables politiques libanais, là-dessus, ils veulent des dates, ils veulent une échéance, et ils veulent des résultats concrets.
Des élections en deux temps, d'ailleurs, élections législatives d'abord, visiblement au mois de mars, et puis plus tard, élection présidentielle. Aurélie Daher, qu'est-ce qu'il faut penser de ce qu'on entend beaucoup au Liban et qui dit que ce gouvernement, c'est au fond le déblocage, c'est Emmanuel Macron qui parle, notamment avec le président iranien?
Alors effectivement, bon, les Français et les Iraniens ont un petit peu mis un coup de pouce, notamment pour aplanir les dernières difficultés et les derniers entêtements. Mais c'est un gouvernement quand même made in Lebanon. Hein, ça a quand même été négocié par les acteurs locaux. Alors moi, je reste, après ça c'est mon point de vue, je reste à peu près optimiste sur la question donc effectivement de la coopération avec le FMI, parce qu'en fait c'était déjà une condition sine qua non pour que puisse exister ce gouvernement. Donc s'il est là, c'est qu'on a dû quelque part trouver au moins se mettre d'accord sur les grandes lignes ou sur quelques grandes conditions. Il ne faut pas oublier que au-delà de cette, la visite de Mikati, c'est d'abord une dernière touche qu'on met un processus de peut-être pas réconciliation, parce qu'on s'est jamais fâché.
C'est à ça que ça ressemble.
Ouais. Mais il y a eu des mots désagréables dans les deux sens. Bon, là maintenant, on revient aux fondamentaux, je veux dire, de la relation franco-libanaise. Le Liban, la France a un point faible pour le Liban. Le Liban peut pas vivre sans la France. Mais il y a aussi une autre chose, une autre dimension. C'est le début d'un nouveau processus qui, là, cette fois-ci, est très franco-libanais et qui est un partenariat, la question de la négociation des partenariats économiques autour de la reconstruction et de la restructuration d'un certain nombre de chantiers. Alors, on le sait, il y a le port, hein, qui intéresse les Français. Les Iraniens sont eux aussi intéressés. Donc je ne serais pas étonnée d'apprendre que dans les discussions entre les Français et les Iraniens sur la constitution du gouvernement, on a déjà un peu peut-être discuté de la manière dont on pourrait se partager, ou les entreprises iraniennes et françaises pourraient se partager ce chantier-là. Et puis il y a évidemment toute la restructuration de l'électricité. Et là, les Français ont une longueur d'avance, parce que on se souvient, dans les années 90, Jacques Chirac avait beaucoup investi, les entreprises françaises avaient beaucoup investi dans la construction de centrales électriques au Liban. Donc j'ai envie de dire, les entreprises françaises connaissent déjà un peu déjà le secteur électrique libanais.
Donc, avec un peu de chance, les élections, juste en un mot, oui, elles auront lieu, et donc mars et novembre 2022.
Bah écoutez, on espère, comme je vous disais, moi je ne crois pas en une désolidarisation massive et déterminée d'une majorité des Libanais vis-à-vis de cette classe politique, malgré les coups de gueule. C'est, on peut très bien gueuler pendant des mois et le jour des élections, mettre toujours le vote pour la... Bah oui. Donc, on verra.
Comme vous dites, on verra, ça vous donnera l'occasion de revenir, peut-être plus tôt d'ailleurs, et j'en ai peur, mais merci beaucoup, merci vraiment.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
Merci à Aurélie Daher. La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Allemagne, où quelques jours avant les élections, là pour le coup, nous serons dans la seule région dirigée, administrée par les Verts, dans le Bade-Württemberg. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars, Sébastien Logeni.
Des oligarques ont-ils tenté d'assassiner le conseiller du président ukrainien?
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir, l'Europe a mis du temps, mais on aura un chargeur universel pour nos téléphones enfin en 2024. Apple dénonce une mesure anti-innovation. Question, est-ce qu'il y a trop de normes dans l'Union?
Allez, à tout de suite, le monde d'après. Jean Marfaux, bonsoir à vous.
Bonsoir, moi aussi, en Allemagne, puisque les sociodémocrates font la course en tête chez nos voisins, on va se poser la question suivante. N'est-ce pas un trompe-l'œil sur un prétendu retour de la social-démocratie en Europe?
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni. Métronomie, Anisi, sur France Inter.
No vows, you're reaching farther now than
Le bruit du monde ce soir est en Allemagne, il y a quelques jours maintenant, des élections, alors que les Allemands sont prêts à changer d'air pour une ère post-Angela Merkel. Il ne vous aura pas échappé que les Verts allemands jouent un rôle important dans cette élection, des Verts qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, et des Verts qui dirigent une région en Allemagne, le Bade-Württemberg, c'est celle qui est juste en face de l'Alsace. Le Bade-Württemberg, laboratoire du nouveau réalisme des Verts allemands, c'est le titre du magazine Interception ce dimanche sur France Inter. Ludovic Piétenu nous en donne quelques extraits, un avant-goût dès ce soir. La prise de son est signée Yves Lehorse.
Ce que j'ai d'abord voulu montrer dans ce reportage, c'est le dynamisme de ce parti politique. En Allemagne, ces 10 dernières années, en multipliant les succès électoraux, les Verts ont plus que doublé leur nombre d'adhérents. À la veille de ces élections, ils sont plus de 120 000. Nouveaux adhérents, nouvelle ligne politique, nouveaux visages. C'est le cas de l'actuelle tête de liste pour la chancellerie, Annalena Baerbock. Elle n'a que 40 ans, elle co-dirige Die Grünen depuis seulement 3 ans. Et avec elle, c'est toute une génération qui a pris le pouvoir, des trentenaires, des quadras, pour le dire autrement, des gens qui n'étaient même pas nés ou à peine quand le parti a été créé en Allemagne en 1980. Vous entendrez quelques-unes de ces nouvelles voix, Marcel Emmerich, 30 ans, l'un des plus jeunes députés, tout parti confondu, Franziska Brandner, 42 ans, propulsée à la faveur d'une poussée verte au Parlement européen déjà en 2009, ou Daniel Bayaz, souvent qualifié d'étoile montante du parti écologiste. Il a 38 ans, par certains côtés il m'a fait beaucoup penser à Emmanuel Macron, dont il ne cache pas une forme d'admiration. On est allé le voir dans ses nouvelles fonctions, ministre des Finances du Bade-Württemberg, capitale Stuttgart.
Je crois que les Verts sont devenus plus forts en s'installant au centre de la société. Et au même moment, la société, mais aussi les entreprises et l'industrie se sont de plus en plus rapprochés des idées des Verts, dans le but d'atteindre tous ensemble les objectifs fixés par l'accord de Paris sur le climat. Et à l'échelle de l'Allemagne, nous avons fait du Bade-Württemberg un épicentre, un laboratoire de cette collaboration entre les Verts et l'industrie. Et de cette expérience, quelles leçons les Verts peuvent-ils tirer aussi pour mener une politique au niveau fédéral? Je crois que le compromis joue un rôle important.
Le compromis, le réalisme, le pragmatisme, ce sont des mots que vous entendrez beaucoup au cours de ce reportage, car c'est bien ce qui fonde depuis ces dernières années la politique des Verts allemands. S'ils sont au pouvoir depuis 10 ans dans le Bade-Württemberg, dans ce land qui avait toujours été dirigé par des conservateurs, dans ce land qui concentre aussi plus de 500 000 familles qui vivent de l'industrie automobile et des grands groupes qui ont leur siège à Stuttgart comme Mercedes ou Porsche, des sous-traitants comme Bosch, si les Verts sont devenus crédibles, même dans ce territoire, c'est bien grâce à cet équilibre, au risque de créer des frustrations, des déceptions chez les plus jeunes ou chez certains électeurs qui préféraient les Verts plus radicaux. Nous sommes aussi allés à leur rencontre.
Allô, est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames?
Est-ce qu'il faut parler français?
Ah, vous parlez français. Vous pouvez parler en français si vous
chantez. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé.
So auf Deutsch.
Eh bien, je m'appelle Anne, je suis d'ici, j'ai grandi ici. Je m'intéresse à l'environnement et à la politique et à tout ce qui concerne notre avenir. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours voté pour les Verts, mais aujourd'hui, je trouve qu'ils font encore trop peu ce qu'il faudrait faire. C'est trop peu, c'est trop lent, tout simplement. Par exemple, il faut faire évoluer l'agriculture. Ça ne va pas assez vite, c'est insuffisant.
C'est là l'une des limites de la croissance des Verts. Ils ont beau présenter une face de plus en plus acceptable, ils sont encore trop clivants, même en Allemagne. Il y a ceux que leur présence ou leur programme horripile. La campagne actuelle d'Annalena Baerbock est celle de tous les candidats qui subit le plus d'attaques, le plus de protestations, les mots les plus durs, les plus violents sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a déjà des déçus. Ceux qui, comme on l'a entendu, disent que le changement ne va pas assez vite. On a posé la question à celui qui dirige ce land de Bade-Württemberg, Winfried Kretschmann, 73 ans, ancien professeur de lycée de biologie et de chimie. Il parle calmement, il est une figure rassurante pour un électorat majoritairement conservateur.
Nous devons avoir des véhicules zéro émission. C'est pour cela que je coopère avec l'industrie automobile. Je ne la combats pas. Bon, c'est pas trop mon truc à moi, j'ai un rapport très rationnel à la voiture. Mais d'autres personnes pensent différemment. Des gens comme ça existent. Je dois leur faire une offre qui soit écologique. C'est le seul moyen. Ce n'est pas à moi de leur dire comment vivre ou quelle voiture conduire ou qu'il est préférable de prendre le bus ou de se déplacer à pied. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Winfried Kretschmann, le premier chef de gouvernement écologiste de l'histoire allemande, ou comment cesser d'apparaître comme le parti de l'interdiction, ou comment les Verts allemands ont réussi leur mutation politique pour devenir un parti si central qu'il pourrait être, après les élections ce dimanche, une force difficile à éviter pour qui veut diriger l'Allemagne.
Ludovic Piétenu et Yves Lehors pour le son. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les deux. La suite, l'intégralité de ce reportage, cette interception, c'est ce dimanche à partir de 9h10 sur France Inter. Un jour dans le monde et le bruit du monde, c'est aussi sous les radars. Et c'est Sébastien Longini maintenant. Génie, c'est votre nom. Je ne sais pas si difficile à prononcer. Nous sommes à Kiev, la capitale de l'Ukraine, secouée depuis hier par une tentative d'assassinat au plus haut niveau de l'État.
La cible visée n'était autre que le conseiller le plus proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cet homme de l'ombre, vieux compagnon de route de Zelensky lorsqu'il était encore humoriste, s'appelle Sergueï Chefir. Hier matin, alors qu'il roulait à bord d'une grosse berline au sud de Kiev, une rafale de fusils automatiques frappe son véhicule, 18 tirs au total, dont 10 dans la carrosserie. Sergueï Chefir s'en sort indemne. Son chauffeur est grièvement blessé, mais aujourd'hui hors de danger. Le président Zelensky, lui, n'était pas présent dans le pays au moment des faits. Il était à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et c'est de là-bas qu'il a envoyé cette vidéo. Qui est derrière tout ça, demande le président ukrainien. Pour être honnête, dit-il, je ne le sais pas encore, mais la réponse sera forte. Cela n'affecte pas la voie que j'ai choisie avec mon équipe vers le changement, vers le désencombrement de notre économie et vers la lutte contre les criminels et les grands groupes financiers influents. Voilà la principale piste vers laquelle s'oriente l'enquête ouverte par la police hier. Les puissants groupes financiers ukrainiens, ce qu'on appelle les oligarques depuis des années, en effet, depuis cette année, en effet, Zelensky et son gouvernement, soutenus et pressés par l'Europe, le FMI et les États-Unis, ont entamé une campagne de lutte contre certains de ces hommes d'affaires richissimes. Un texte de loi très attendu vient d'ailleurs d'être voté aujourd'hui, qui interdit aux plus riches de financer des partis politiques et de participer à la privatisation de grandes entreprises. Alors, cette tentative d'assassinat est-elle un avertissement adressé au président? Elle replonge en tout cas l'Ukraine 30 ans en arrière après la chute de l'URSS, à l'époque où le dépeçage économique des ex-républiques soviétiques se faisait à coups de Kalachnikov.
Direction l'Espagne, Sébastien, qui publie une étude médicale inédite sur un cas d'addiction à Fortnite.
Fortnite, si vous ne connaissez pas, Fabienne, ça donne ça. Voilà, c'est un jeu un peu brutal, un jeu vidéo de tir en ligne qui fait un carton, vous le devez le savoir, oui, depuis des années auprès des ados, et pas que, 350 millions de joueurs dans le monde. Parmi eux, beaucoup d'accros, évidemment, ce n'est pas nouveau, les parents connaissent bien le problème. Sauf que pour la première fois, donc, une équipe médicale espagnole s'est penchée sur le cas d'un jeune de 15 ans affecté par une très lourde dépendance aux jeux vidéo. Cet ado de la région de Valence, très bon élève, a basculé dans l'addiction après la mort d'un membre de sa famille. 20 heures par jour devant son écran, plus aucune hygiène de vie, plus d'amis, plus d'école, un isolement total qui a nécessité une hospitalisation de 2 mois dans un service spécialisé en toxicomanie. Depuis, il va mieux à réintégrer sa famille et son école. Conclusion de ce rapport espagnol, on doit traiter l'addiction aux jeux vidéo comme la drogue.
La santé, qui est aussi une préoccupation en Ouzbékistan, au point que le président ouzbek promet de payer les plus sportifs.
C'est une idée qui date de l'an dernier, en pleine deuxième vague du Covid. Les journaux télévisés ouzbeks relayent alors une initiative très originale de leur président, inquiet de la piètre condition physique de ses concitoyens. Ainsi, afin d'affronter la pandémie en meilleure forme, le chef de l'État ouzbek décrète que les habitants qui feront de la marche seront payés une petite somme d'argent à chaque fois qu'on dépasse les 10 000 pas. Dans le détail, chaque marcheur qui dépasse ce seuil des 10 000 pas reçoit 3 000 soums, la monnaie locale, c'est-à-dire 23 centimes d'euros. Ça ne fait pas lourd, je vous le concède. Mais dans un pays où le salaire moyen est de 245 euros, c'est toujours ça de prix. D'autant que chaque mois, on peut gagner plus. Le champion de chaque quartier peut remporter 24 euros, le champion du district 40 et le champion national 80 euros. Et ça marche, sans mauvais jeu de mots. L'Ouzbékistan a distribué près d'un million d'euros à ses citoyens marcheurs ces trois derniers mois. Le champion toute catégorie s'appelle Ouloubek Toyrov. Il a fait 1 900 000 pas. J'ai calculé, Fabienne, ça fait 500 km pour la modique somme de 50 euros.
Ben, c'est pas si mal.
Ça se tente, hein.
Ben, absolument. Moi, je ferai le tour du monde à pied, vénal, comme je suis. À demain, Sébastien. Vous partez avec Aretha Franklin. Et elle dit que le changement, c'est maintenant. A change is gonna come. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. I was born by the river in a little tent, and just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long change is gonna come. Oh yeah. He said it's been too hard living, but I'm afraid to die. I might not be if I knew what was up there. Franklin, change is gonna come sur France Inter. Tiens, changeons de pays justement, de continent même.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique Boin, en 2024, nous aurons en Europe un seul et même chargeur qui marchera pour tous les téléphones, y compris Apple. C'est donc ce qu'a annoncé la Commission européenne. Et pour le coup, là, Angélique, c'est une bonne nouvelle, non?
Alors oui et non, en fait, Fabienne, parce que si on voit le verre à moitié plein, on se dit effectivement, youpi, enfin, on en parle ici depuis 2009, ça concerne les téléphones, mais aussi les tablettes, les enceintes, c'est pratique, c'est moins de déchets électroniques, c'est de l'Europe concrète, en fait, qui agit en faveur des consommateurs et du climat, s'est réjoui tout à l'heure le commissaire Thierry Breton.
Et du coup, si on voit le verre à moitié vide, alors?
Eh ben, on se dit quand même que ça a mis du temps. Ça devrait entrer en vigueur en 2024 parce qu'il faut encore négocier le texte avec le Parlement, les États, même si ce sera une formalité. On aura donc mis, Fabienne, 15 ans. Alors, avec certes des petites avancées, hein, sous pression, Samsung, Nokia, Huawei n'ont pas attendu que Bruxelles finalise ce projet pour passer quand même d'une trentaine de modèles, souvenez-vous, à trois. Tous se dirigent déjà vers un modèle unique, mais il y a Apple. Apple qui fait depuis 10 ans de la résistance, et puis ça continue. Hein. Cette législation va brider l'innovation et va inutilement perturber nos consommateurs, écrit la marque à la pomme dans son argumentaire envoyé à la Commission. Apple qui n'est pas du tout prêt à obtempérer, qui va sans doute développer du coup à fond, devinez quoi, ces chargeurs sans fil, hein, c'est ce que prédisent certains experts pour essayer de contourner cette législation. On verra si elle y arrive. Bref, on a mis du temps et puis au final, pas sûr qu'on en ait encore besoin de fil pour recharger nos téléphones en 2024. Voilà pour le verre à moitié vide.
Alors, Angélique, on en revient à une critique, au fond, qui est souvent entendue sur l'Union européenne. On produit trop de normes et en plus, on le fait à la vitesse d'un escargot.
Eh bien là encore, oui et non. Hein. On en produit en fait beaucoup dans certains secteurs, pas du tout dans d'autres. Alors profitons de cette chronique pour contester un chiffre qu'on lit bien souvent. Non, 80% de notre législation ne se fabrique pas à Bruxelles. On est plutôt proche de 20% en moyenne, estime Yves Bertoncini. Il est consultant en affaires européennes et président du mouvement européen France.
C'est très très variable selon les secteurs. Il y a des secteurs où c'est 40, 50. L'environnement, l'agriculture, la pêche, il y a des politiques communes, de régulation des services financiers. Et de l'autre côté, des secteurs où c'est quasiment rien du tout. Hein. L'éducation, elle est nationale, voire régionale. L'ordre public, la police, le social. D'ailleurs, on dit souvent qu'il y a une concurrence sociale. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de normes européennes.
Voilà, c'est donc, dit-il, dans l'intérêt du marché unique. Hein. Quand on fait une norme européenne, on en supprime parfois 27 nationales, rappelle Yves Bertoncini. Qu'est-ce que vous diriez, Fabienne, si votre voiture, votre auto, moto, vous faites de la moto, votre moto électrique ne pouvait pas se recharger sur une borne allemande, hein. Ou si des entreprises mal intentionnées polluaient nos rivières, c'est ce que rappellent les experts pro-européens quand on les interroge sur ce sujet.
Ah oui, alors c'est vrai, Angélique, mais tout ça, c'est très très long aussi.
Ah oui, et ça, personne ne le conteste.
Pourquoi c'est long? Parce que c'est technique, parce que derrière, il y a des intérêts industriels qui peuvent diverger selon un constructeur ou l'autre, un industriel ou l'autre. Et puis donc, au-dessus de ça, des gouvernements, des parlementaires européens qui essayent de concilier les contraires. Et donc, oui, c'est long, oui, c'est pas parfait, mais la plupart des normes, elles ont plutôt servi des objectifs d'intérêt général européen.
Voilà, c'est pas parfait et la plupart des normes nous sont utiles, dit Yves Bertoncini. La plupart parce qu'on se souvient quand même d'une époque où on légiférait sur la taille des concombres. Alors aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'on travaille beaucoup plus ici sur les normes environnementales ou numériques, les deux grandes priorités de la Commission. Alors oui, sans doute, ça bride, ça freine certaines innovations, mais c'est assumé ici. Hein. On veut pousser et financer les entreprises qui innovent dans des technologies propres et qui assurent donc la transition ou qui assurent la transition numérique. C'est un projet politique assumé, voté par les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres, il faut tout de même le rappeler.
Angélique Bouin, merci beaucoup Angélique. Angélique qui nous parle d'Europe tous les jeudis dans Un jour dans le monde.
Fabienne Synthès, le 18-20.
D'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, dans un peu plus d'une heure, 20h15,
voilà,
ce sera l'ultime débat télévisé entre les candidats en Allemagne. Il y a trois jours d'élections qui vont tourner la page donc de 16 ans d'Angela Merkel. Et dans les sondages, le SPD, social-démocrate, fait toujours la course en tête. D'où cette question, le centre-gauche est-il de retour en Europe ou est-ce un effet d'optique? C'est votre monde d'après.
Il faut bien dire qu'il y a encore 3 ou 4 mois, personne n'aurait misé un centime sur une victoire des sociaux-démocrates chez nos voisins. Le SPD était englué autour de 15%. Son candidat Olaf Scholz, encore surnommé Scholzomate pour son côté automate. La lente descente aux enfers de la social-démocratie semblait se poursuivre et puis la victoire semblait destinée soit une nouvelle fois à la CDU de centre-droit dépositaire de l'héritage Merkel, soit aux écologistes, un temps grisé par les sondages. Tout a changé pendant l'été, Scholz a refait son retard en imposant une image de calme, de compétence et désormais toutes les enquêtes préélectorales en effet mettent le SPD en tête vers 25-26%, 4 points devant la CDU, 10 points devant les Verts. On verra dimanche à 18h, mais comme le vote par anticipation devrait bien atteindre 30%, le temps devient compté pour renverser la tendance. Et si le SPD se retrouve aux manettes, il promet déjà quelques mesures authentiquement social-démocrates, hausse du salaire minimum de 2 euros tout de même, amélioration des allocations chômage, hausse de la fiscalité des plus riches, investissement public dans les crèches, les énergies renouvelables, le numérique, et ces axes seront sans doute confortés s'ils font alliance au gouvernement avec les écologistes. Donc oui, il y a potentiellement là un retour inattendu pour le centre-gauche.
Et en plus, Jean-Marc, il n'y a pas que l'Allemagne.
Oui, et là aussi, c'est un peu la surprise du chef pour les sociaux-démocrates en Europe, qui paraissait entraîné dans un irrémédiable déclin partout sur le continent. À cet instant, les 5 pays du nord de l'Europe sont dirigés par le centre-gauche. Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande, même si l'Islande vote également dimanche et pourrait basculer à droite. À cette liste, on peut ajouter des pays du sud comme l'Espagne ou le Portugal. Le dernier pays à avoir assisté au retour des sociaux-démocrates, c'est la Norvège, il y a quelques jours. On en avait parlé ici même. Le probable futur Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre évoque le retour d'une force motrice de la social-démocratie. Même en Suède, juste avant l'été, les sociaux-démocrates donnés perdants ont réussi à rester au pouvoir. Sur ce coup, je l'avoue d'ailleurs, je m'étais trompé en pronostiquant l'inverse, autant pour moi. Alors, comment expliquer ce frémissement social-démocrate? Je vois au moins deux raisons. Et de un, la pandémie de Covid a rendu ses lettres de noblesse à l'État-providence. L'intervention de la puissance publique par le système de santé et par le soutien à l'économie, le quoi qu'il en coûte, redevient légitime. C'est l'une des marques de fabrique de la social-démocratie en Allemagne. Une nouvelle génération d'économistes prône d'ailleurs ouvertement une politique d'endettement et de dépenses publiques. Et de deux, le centre-droit, devenu central en Europe ces 20 dernières années, est confronté à l'usure du pouvoir, un classique, Merkel en est l'exemple type. Usure d'autant plus forte que le centre-droit, on le voit bien, subit la rivalité idéologique des droites radicales, voire extrêmes.
Donc c'est le grand retour du centre-gauche.
Et non, il y a en fait un effet d'optique, il y a un trompe-l'œil. D'abord, toutes ces victoires électorales récentes sont souvent des victoires petit bras, 25-26% des voix, on le disait, 13 en dessous des 35 ou 40% des 20 dernières années du XXe siècle. Les sociaux-démocrates ont une illusion de victoire alors qu'ils font seulement la moins mauvaise performance des grands partis dans un paysage politique de plus en plus éclaté en mille morceaux, de plus en plus radicalisé aussi. On est loin de ce que l'on appelait le Lagerkampf en Allemagne, le duel bipolarisé des deux grands partis. Ensuite, il y a des succès de circonstances. Par exemple, cette fois-ci en Allemagne, si le SPD est donné en tête, c'est aussi parce que son leader Olaf Scholz est apparu à titre individuel comme le véritable héritier de Merkel. Un gage de stabilité. Ce n'est pas un tournant idéologique, c'est pas la même chose. Enfin, l'éclatement du paysage politique contraint à des gouvernements de coalition, et ça relève parfois du gymkhana, par exemple en Suède, j'y reviens, où certes le centre-gauche a sauvé sa tête, mais alors c'est au prix d'un montage assez baroque avec les écologistes et les centre-droits. On pourrait tout à fait assister à la même scène en Allemagne. Les votes, s'ils sont très disséminés, pourraient imposer une coalition à trois, par exemple sociaux-démocrates, verts, libéraux. Là, ça devient la carpe et le lapin, vu que les libéraux sont les gardiens du temple de l'orthodoxie budgétaire. On ne dépense pas. Dans ce cas, pas sûr que ça se mette en place une politique de centre-gauche. Bref, attention au miroir déformant. Il n'y a pas de retour à une adhésion massive aux idées de la social-démocratie.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.